Le journal présenté par Diana Dacosta, bonjour.
Bonjour. Belley à l'honneur grâce à une découverte archéologique. La construction originale de l'hôtel de l'Ours est révélée après d'importantes inondations en 2016. Maintenant entièrement rénovée, l'auberge accueillera cet après-midi un archéologue pour parler de son histoire vieille de plus de 300 ans. Voitures volantes, extraterrestres ou encore téléportation, voilà le futur tel qu'on l'imaginait il y a plusieurs années dans les films ou dans les BD. Le futur d'avant, c'est un peu notre présent d'aujourd'hui et nous sommes loin de toutes ces folles prédictions. À quoi ressemble notre futur à nous? C'est le thème central de la nouvelle exposition de Plonk et Replonk à Porrentruy. Louise Bourgeois au cœur de la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts du Locle. Une triennale qui fait la part belle aux artistes femmes. Et météo, on profite d'une journée tout à fait ensoleillée dans toute la région jusqu'à la tombée de la nuit. Demain, même tendance, on se réveillera dans le brouillard par endroits, mais il devrait se dissiper dans la matinée pour laisser place au soleil. Pensez par contre à bien vous couvrir, le mercure ne dépassera pas les 14 degrés. Belley sous les projecteurs grâce à un incident. Tout est parti de graves inondations qui ont touché l'hôtel de l'Ours en hiver 2016. L'eau qui s'est amassée dans les pièces a laissé apparaître l'ossature historique de l'auberge originale. Celle-ci date de 1698 et a été construite sous l'abbatiat de Frédéric de Stahl. Une trouvaille historique qui lui a valu une conférence présentée par Christophe Gerber. À l'occasion de l'achèvement des travaux de rénovation de l'hôtel de l'Ours de Belley, l'archéologue se penchera cet après-midi sur l'histoire de cet édifice. Selon lui, cette étonnante découverte s'ajoute au patrimoine déjà riche du hameau, Christophe Gerber.
Le site de Belley en lui-même est un site qui est absolument remarquable. Il est souvent un peu méconnu du grand public. Je pense qu'avec les activités culturelles qui se pratiquent à Belley, la réouverture de cet hôtel, restaurant, la fabuleuse abbaye en fait, avec une histoire de plus de 800 ans, c'est un site qui mérite d'être découvert ou redécouvert. Et puis je pense que l'archéologie et l'histoire peuvent apporter un éclairage un peu renouvelé maintenant sur l'histoire de ces bâtiments.
C'est un atout touristique aussi, vous diriez ?
Ah, absolument. Alors je crois qu'il y a les connaisseurs, les amateurs d'art baroque ou de construction ancienne dans le Jura viennent très volontiers dans cette région.
Christophe Gerber, archéologue du service archéologique du canton de Berne. Sa conférence se tiendra cet après-midi à l'hôtel de l'Ours à Belley à 17h. Le futur se dessine à Porrentruy. Le musée du Pire accueille depuis ce matin la nouvelle exposition de Plonk et Replonk. Les artistes chaudefonniers ont inauguré Le Monde d'après, nouvelle exposition temporaire nichée dans le palais incongru des raretés étonnantes. Le trio s'est amusé à imaginer le monde d'après la pandémie. Et pour Jacques Froidevaux, membre de Plonk et Replonk, le futur, c'était mieux avant.
Ah, parce que dans les Trente Glorieuses, on était optimiste, on allait rencontrer les extraterrestres. C'est vrai qu'il y aurait des voitures volantes. On partait dans une idée de progrès constant, depuis Jules Verne, par exemple. Bien sûr, on est sur la Lune, on devrait déjà être sur Pluton, on est pris du retard. Et on s'aperçoit que on parlait pas vraiment d'écologie. Donc on s'aperçoit que chaque progrès a ses revers aussi. Et le fait d'en rire, de s'amuser avec nous permet de ne pas sombrer dans une paranoïa, dans le complotisme, et peut-être de réagir pour l'influencer ce futur.
Vous n'êtes pas seul du coup pour cette exposition, il y a aussi des dessinateurs, dessinatrices. L'idée derrière ça, de les joindre à vos travaux, c'était quoi?
C'était parce qu'on aime bien les dessinateurs de presse, on a aussi commencé dans les journaux. Puis c'était aussi pour pas que ce soit Plonk qui présente une expo Plonk par Plonk et Replonk. Voilà. Il y a des dessinateurs connus, d'autres moins. C'était l'idée aussi géographiquement de s'étendre, de faire appel à d'autres talents. Quoi.
Des propos recueillis par Thomas Nagy, l'exposition « Le monde d'après » de Plonk et Replonk est visible jusqu'au 22 avril au musée du Pire à Porrentruy. Et une autre exposition au Locle cette fois, le musée des Beaux-Arts qui met les artistes femmes à l'honneur. Dans le cadre de la 10e édition de la Triennale de l'art imprimé contemporain qui s'ouvre ce samedi, 5 artistes sont présentés. Un contre-pied à l'invisibilisation des femmes longtemps dominées dans le milieu artistique. En tête d'affiche de cette exposition, Louise Bourgeois, décédée en 2010 à presque 100 ans. Cette artiste française a marqué son époque et est devenue un emblème du féminisme. Retour sur son œuvre et son impact avec la conservatrice adjointe du Musée des Beaux-Arts du Locle, Séverine Catin.
Il parle, elle parlotte. Alors, il tousse, qu'elle, elle toussonne.
Ce texte, c'est une sorte de rap qui décrit l'histoire de Charlotte, qui fait tout de travers à cause des hommes. Mais surtout, Louise Bourgeois s'amuse à jouer avec le suffixe « haute » et sa sonorité dans une optique de dévalorisation qui inscrit vraiment cette œuvre dans une démarche féministe.
Dans cette exposition de la Triennale, vous avez choisi de mettre en avant son art gravé. Pourquoi ?
C'est vrai que ça peut paraître plus étrange parce qu'elle est beaucoup plus connue pour son œuvre plastique, notamment par ses araignées monumentales. Mais c'est une facette plus intime, plus attachante qu'on a choisi de montrer ici, car en fait, elle a été très rarement exposée.
Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans son art imprimé, qui sont très actuels aujourd'hui.
Oui, chez Louise Bourgeois, on retrouve des thèmes récurrents comme le corps, la maternité, l'enfance, le couple, la transidentité, donc des sujets qui ont un très grand impact encore aujourd'hui, qu'elle questionne, qu'elle remet en cause. Elle hybride des parties de corps, transformant les codes sexuels, jouant sur le masculin et le féminin. Donc c'est extrêmement intéressant de voir l'écho contemporain qu'a cet artiste encore aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la carrière de Louise Bourgeois ?
Alors là, de particulier, le fait d'avoir déjà été reconnue très tardivement, puisque c'est en 1982 qu'elle a la première exposition monographique au MoMA à New York, alors qu'elle est âgée déjà de 70 ans. Elle créait, elle gravait depuis les années 40.
Quel impact elle a eu sur ses contemporains, sur ses contemporaines et sur l'art en général ?
Son travail a vraiment servi d'emblème au féminisme, notamment avec sa femme maison ou sa Sainte-Sébastienne. Nous avons la chance d'avoir une pièce majeure exposée dans le cadre de cette exposition, à travers aussi sa manière d'approcher l'art. C'est-à-dire qu'elle a, en fait, elle a beaucoup travaillé sur sa vulnérabilité et sur ses faiblesses qu'elle a utilisées en fait, comme matière première pour créer.
Est-ce qu'à l'époque, justement, c'était des choses qui étaient plus invisibilisées, qu'elle a mis sur le devant de la scène ?
Oui, je pense qu'elle a mis sur le devant de la scène cette manière de travailler sur soi, sa psychanalyse qu'elle a suivie pendant plus d'une dizaine d'années. Donc elle a utilisé son journal intime, une sorte de terrain émotionnel violent qu'elle a souhaité offrir au public.
J'ai dit, je le répète, il vit, elle vivote. Sans dot. Elle se fagote et se chapote et sa culotte comme une cocotte.
Séverine Catin, conservatrice adjointe du Musée des Beaux-Arts du Locle au micro de Raphaël Girardin. La 10e triennale de l'art imprimé contemporain se tient jusqu'au 9 janvier.
Et à midi 23 sur RJB, on fait un point sur l'actualité sportive.
Sport. Lara Gut-Behrami présente d'entrée pour le début de la Coupe du Monde de ski alpin. La skieuse suisse a remporté ce matin la première manche du géant d'âme à Sölden. Sur le glacier autrichien, la Tessinoise a devancé l'américaine Michaela Schifrin de 2 centièmes. Le podium provisoire est complété par l'autrichienne Stéphanie Brunner à 54 centièmes. Lara Gut-Behrami, championne du monde en titre de la discipline, est dans les meilleures dispositions pour cette première étape de la Coupe du Monde. Niveau suisse, l'Obwaldienne Michelle Gysin termine 17e à plus d'une seconde et demie de la Tessinoise. La Nidwaldienne Andrea Ellenberger s'est aussi qualifiée pour la 2e manche grâce à son 28e temps. Une seconde manche qui se disputera à 13h15. Le HC Bienne est de retour sur la glace après une semaine sans match. Les hockeyeurs zélandais repartent au combat ce soir contre Rapperswil en National League. Coup d'envoi à 19h45 à la Tissot Arena. Les rouges et jaunes devront s'imposer s'ils comptent se rapprocher du leader fribourgeois Nicolas Meusy.
Le HC Bienne tient la cadence infernale imposée par Fribourg. Les Zélandais sont deuxièmes au classement de National League à 5 points de Dragon irrésistible cette saison. Le HCB compte toutefois un match en moins et peut donc, en cas de victoire, revenir à 2 points du leader. Même si les Biennois restent sur un succès convaincant sur la glace des ZSC Lions, 4-1 samedi dernier, la machine semble gripper à domicile. Une seule victoire sur les 4 dernières sorties à la Tissot Arena. On est loin de la forteresse imprenable du début de saison avec le 4-4 signé par le HCB. Les hommes d'Antti Tormanen ont l'occasion de redonner le sourire à leur public ce soir. Ils affrontent Rapperswil, 6e du championnat et 8 points derrière. Des Lakers qui restaient sur 2 défaites de rang mais qui ont vaincu Fribourg hier soir 5-4. Les Saint-Gallois débarqueront à la Tissot Arena un peu fatigués peut-être, mais avec une confiance retrouvée. Quoi qu'il en soit, le HC Bienne reste le favori de cette rencontre, d'autant plus que les Biennois ont battu Rapperswil 6-4 en début d'exercice.
HCBN Rapperswil, c'est ce soir en direct dès 19h30 sur RJB avec notre consultant Christophe Val. La Coupe de Suisse au menu du HC Franche-Montagne. Les hockeyeurs ténions disputent les huitièmes de finale de la compétition. Ils reçoivent Meyrin-Genève à 17h à Seignelay-Gier. Les deux équipes se connaissent bien puisqu'en championnat, elles évoluent ensemble en première ligue. L'Erguel HC, toujours lanterne rouge de deuxième ligue de hockey sur glace. Les joueurs de Pascal Guillemaine ont subi hier leur quatrième défaite en quatre matchs de championnat. Ils se sont inclinés à Fleurier 5-2. Le HC occupe la dernière place du classement, un point derrière Moutier. Et en parlant de Moutier, le HCM se frotte ce soir au leader invaincu Star Chaux-de-Fonds. Coup d'envoi à 17h30 sur la glace prévotoise. Moutier n'a pas encore goûté aux joies de la victoire cette saison. On reste en deuxième ligue avec un duel sur le podium. Le HC Tramelan reçoit le LOC ce soir à 17h45. Les Tramelots pointent à la troisième place du classement, deux points derrière les Loclois. Le volleyball Franche-Montagne décroche sa première victoire de la saison en Ligue A. Les Jurassiennes l'ont emporté contre Valtra 3-0 hier soir dans leur salle de Seignelay-Gier. Le score 25-19, 25-14 et 25-11. Il aura fallu attendre la quatrième journée du championnat pour voir les filles de Rui Moreira s'imposer. Un succès qui permet au VFM de gagner une place au classement. Il est désormais sixième à deux longueurs de son prédécesseur Guin. En football, le FC Bienne se déplace chez la lanterne rouge de Promotion League. Les protégés d'Anthony Siroufo jouent à 16h contre Brühl dans le canton de Saint-Gall. Les Biennois sont dans le ventre mou du classement, à 2 points de la barre et à 5 longueurs du podium. Un derby pour pleinement décoller. Le FC Tavannes-Tramelan reçoit Ajoie-Montéry cet après-midi en deuxième ligue interrégionale de football. Le FCTT n'a perdu qu'un match sur les 6 dernières rencontres. Ses résultats lui ont permis d'engranger 6 points, mais pas de sortir de la zone rouge. Les protégés de Steve Langel sont juste sous la barre à une unité du premier non relégable. Un point, c'est aussi ce qui les sépare de la lanterne rouge, mais la confiance est de retour dans les rangs du FCTT, comme en témoigne le capitaine Sergio Cugna.
L'équipe a enfin un peu retrouvé de la solidité, à force de travailler, à force de retrouver certains automatismes. Il n'y avait pas vraiment de point de défaillance, c'est surtout une histoire de réussite. On faisait des bonnes performances, après voilà, on était souvent mal payé et finalement, on a peut-être eu quelques matchs où on s'est remis en question et maintenant je pense qu'on a pris confiance en nous, on s'est rendu compte que vraiment là où on était le meilleur c'est quand on jouait au ballon et finalement c'est venu là assez naturellement. Donc l'équipe elle est assez confiante, elle est aussi assez jeune, elle progresse beaucoup, donc au fur et à mesure que les matchs s'enchaînent on s'aperçoit que ça va mieux.
De confiance, le FC Ajoie-Montéry en manque un peu. Même si les Jurassiens occupent le quatrième rang du classement à 4 unités du leader, ils vivent une période creuse. Les hommes de Thierry Payet n'ont pris qu'un point sur leurs 3 derniers matchs. Un secteur fait défaut, en particulier selon le milieu de terrain jurassien Josip Boudimir.
Ce qu'il faut surtout retrouver, c'est la sérénité défensive. Sur les 3 derniers matchs, on encaisse quand même beaucoup de buts par rapport aux 6 premiers matchs. Et puis, on sait très bien que autant l'année passée que cette année, il faut qu'on soit solide défensivement pour qu'on puisse aller de l'avant.
Cette fébrilité défensive qui est venue un petit peu après coup, comment vous l'expliquez ?
Il y a eu quelques changements dans l'effectif au niveau défensif. Est-ce que c'est dans la tête qu'on doute un peu ? Personnellement, je ne pense pas, vu qu'on a quand même des joueurs d'expérience derrière. Je pense plutôt c'est des faits de jeu. Là, le dernier match, on encaisse 3 buts. On va dire qu'il y a une grosse erreur défensive sur le troisième. Et puis les 2 premiers, ce n'est pas vraiment la défense, c'est toute l'équipe. On n'est pas assez haut sur le porteur du ballon.
Un dossier de Nicolas Meusy, coup d'envoi du derby à 16h à Tramelan. Et puis Moutier se déplace à Bâle aujourd'hui. Les Prévotois jouent contre Concordia à 17h. Ils sont lanterne rouge de deuxième ligue interrégionale à 2 points du premier non relégable. Bon appétit si vous passez à table et excellent après-midi à notre écoute.